ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité.
Bonjour à tous et bienvenue dans la maison de Dieu en esprit avec l'Église universelle et aussi virtuellement avec vous qui nous avez rejoints sur le site de l'Église protestante de Blegny. Aujourd'hui, aux portes du déconfinement des lieux de culte, nous avons décidé de continuer nos enregistrements audio jusqu'à nouvel ordre. En effet, notre chapelle ne répondant pas aux directives prescrites pour assurer valablement la sécurité de tous. Pour commencer notre culte, je vous invite à la prière. Ô Dieu, nous venons à toi dans la louange pour te dire notre reconnaissance de pouvoir nous réunir autour d'un enregistrement qui est notre culte. Dans l'impossibilité de nous revoir, nous te prions de nous unir en esprit et en vérité pour te donner gloire. T'apportons les souffrants, quels qu'ils soient, les désespérés, quels qu'ils soient, les sans espoir et aussi les sans espérance. Que nous puissions en Église, être les témoins de ta puissance et aussi de ta compassion et aussi, surtout, de ton amour. Remplis-nous de ton esprit pour mettre en pratique la parole que tu nous transmets. Dans le nom de Jésus le Christ, nous t'avons prié. Amen. Tous les après-guerres ont vu une recrudescence de spiritualité et parfois de réveils religieux extraordinaires. Qu'est-ce qui peut déclencher un tel engouement? Les périodes de crise sont souvent sujettes à la réflexion, la prise de conscience et la remise en question. Je vous propose de lire ensemble le psaume 51, véritable cri au secours de David après s'être rendu compte de son péché. Psaume 51, traduction Nouvelle Français Courant. Psaume de David appartenant au répertoire du chef de chorale. Lorsque le prophète Nathan alla vers David parce que celui-ci était allé chez Bathsheba. Mon Dieu, toi qui es si bon, accorde-moi ta grâce. Ta tendresse est si grande, efface mes fautes. Lave-moi complètement de mes torts et purifie-moi de mon péché. Je t'ai désobéi, je le reconnais. Ma faute est toujours là, je la revois sans cesse. C'est contre toi seul que j'ai mal agi. J'ai fait ce que tu désapprouves. Ainsi, tu as raison quand tu prononces ta sentence. Tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Moi, je fus enfanté dans la faute, dans le péché de ma mère qui m'a conçu. Mais ce que tu aimes trouver dans le cœur d'une personne, c'est le respect de la vérité. Au plus profond de ma conscience, fais-moi connaître la sagesse. Fais disparaître mon péché et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi ton pardon, il m'inondera de joie. Alors je serai en fait, moi, que tu as écrasé. Détourne ton regard de mes fautes, efface tous mes torts. Mon Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit. Ne me rejette pas loin de toi, ne me prive pas de ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie d'être sauvé, que ton esprit généreux me soutienne.
Yeah.
Le psaume 51 et ce chant, interprété par Jacqueline, se rejoignent en une conclusion qui doit nous enchanter. Alors, brûlant d'un nouveau zèle, Seigneur, nous pourrons t'obéir. Oh, que la vie est grande et belle pour ceux qui veulent te servir. L'après-Covid-19 commence aujourd'hui. Quel chemin vais-je prendre? Quel chemin vais-je suivre? Quelle motivation va me faire grandir? Quelle résolution ai-je pris pendant ce temps de retraite forcée? Et si le réveil venait de moi et de ma remise en question avec l'aide du Saint-Esprit? Pour le partage de ce matin, je vous propose deux lectures bibliques. La première, dans Genèse, chapitre 4, versets 1 à 7, et je lirai dans la version Second, 1910. Adam connut Ève, sa femme, elle connut et enfanta Caïn. Et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Notre deuxième lecture se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. Jésus dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes, et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même et dit « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne deux fois la semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Je vous invite à la prière. Seigneur, quand nous pensons être bien dans nos maisons, tu viens nous en enfermer pour mieux nous parler. Quand nous pensons être bien dans nos églises, tu viens enfermer l'accès pour mieux nous en montrer la valeur. Quand nous pensons que nous avons tout compris, tu te présentes dans nos vies pour tout chambouler et pour nous conduire sur un nouveau chemin. Continue à être l'œuvre dans nos vies, et particulièrement par la lecture des textes bibliques que nous allons partager. Amen. Il y a plus de 10 ans, je prêchais pour la première fois en public. Le texte pour ce jour-là a mis plus de 6 mois à être écrit. Une phrase m'avait traversé l'esprit. « Frère, je ne veux pas que vous ignoriez. » C'était le titre d'un livre, mais aussi un verset biblique de la première épître aux Corinthiens, chapitre 10. Le passage que j'avais donc cerné était 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 13. Mais je n'ai lu que jusqu'au 11e, laissant en suspens les 2 derniers versets pour la fin. « Frère, je ne veux pas que vous ignoriez. » La suite décrit ce que le peuple de Dieu dans le désert a eu comme bénédiction venant de Dieu, mais montre aussi 4 attitudes de certains qui désobéirent, et les conséquences furent 40 années d'errance et de peine pour en final ne même pas entrer dans le pays promis. Je m'étais attelé à reprendre les épisodes néfastes et à bien les développer, remettant ainsi quelques couches supplémentaires pour montrer ce que le verset 11 donnait comme message. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Toutes ces choses étaient pour nous. Attention à l'idolâtrie, attention à l'impudicité, attention de ne pas tenter Dieu, attention aux murmures. Ah, c'est Paul qui le disait, « Frère, je ne veux pas que vous ignoriez. » Parfois, en utilisant la Bible au pied de la lettre, le danger est de la tourner vers les autres, sans voir qu'elle est un miroir qui doit nous interpeller, qui doit m'interpeller. Le verset 12 et 13 qui suivent 1 Corinthiens 10 nous disent ceci. « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Autrement dit, si vous pensez que cela ne vous arrivera pas, attention. Le danger est ailleurs que dans la tentation, puisque Dieu ne sera pas excessif dans ses démarches, et en plus il prévoira aussi le moyen d'en sortir, si cela devait tourner mal. Le vrai danger est dans cette petite phrase. Que celui qui croit être debout. D'autres versions traduisent que celui qui pense être debout. Et le texte que nous avons lu de Luc 18, verset 9 nous dit « Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes. » Le public de cette parabole est ciblé. Ce sont les personnes se persuadant qu'elles sont justes. Le texte original parle de ceux qui avaient confiance en eux qu'ils étaient vraiment justes. Ce texte s'adresse aux gens qui se croient sans faute, sans rien à se reprocher. Oh, peut-être que Parmi ceux qui écoutent, il y en a qui se disent « c'est pas pour moi ». Mais je ne pense pas être seul. Ce verset d'introduction de la parabole de Jésus est déjà un commentaire. Avant même d'entendre et de comprendre ce que Jésus a à nous partager, l'auteur de l'évangile a déjà déterminé qui allait se faire reprendre de voler, qui allait recevoir la gifle de Jésus, ceux qui se croient justes. L'auteur, Luc, nous habitue à ce genre de mise en page littéraire. Pour ma part, j'ai une Bible où les paroles de Jésus sont en rouge et le texte narratif en noir. Mais en survolant les pages, nous remarquons que l'évangéliste Luc met souvent son petit grain de sel pour relever son texte. Quelques exemples. Luc 18:1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Chapitre 14, verset 7. Il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Chapitre 16, verset 14. Les pharisiens, qui étaient avares, écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Etc. L'introduction du chapitre 15 va nous éclairer sur les personnages de la parabole que nous avons lue. Luc 15, les deux premiers versets. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux !» Mais qui sont ces gens? Qui sont les publicains? Qui sont les pharisiens? Les publicains, appelés aussi péagers, étaient les personnages préposés à la perception des impôts et des droits de passage sur les marchandises que l'on transportait d'un territoire à l'autre. Ils étaient juifs, à la solde des Romains. Ils touchaient comme salaire une partie des prélèvements d'argent, mais généralement, ils exigeaient une somme plus importante et s'enrichissaient ainsi sur le compte de leurs frères de sang. Nous avons pour exemple Zachée. D'autre part, Jésus recommanda à plusieurs qui voulaient se faire baptiser de n'en rien exiger au-delà de ce qui était ordonné, selon Luc 3, 12, 13. Matthieu lui-même était publicain, ce qui ne l'a pas empêché de suivre Jésus et de nous rapporter un évangile. Pour ce qui est des pharisiens, ils étaient l'un des trois partis juifs, avec les sadducéens et les esséniens. Pharisien veut dire en araméen « séparé », et c'était sans nul doute les plus étroits d'esprit. Paul, qui était de leur parti, n'hésitera pas à les décrire comme la secte la plus rigide de la religion juive dans Actes 26:5. L'histoire de ce groupement remonte au IIe siècle avant Jésus-Christ, qui vit le jour en réaction contre l'inclinaison de certains juifs pour les coutumes de l'Empire grec de l'époque. Ils étaient très proches de la Torah et voulaient l'imposer pour tous, aussi bien au temple que dans les rues. Pour eux, l'application de la loi dans tous les domaines de la vie devient prioritaire. Il en résulte une interprétation très stricte qui faisait office d'autorité, bien au-delà de la loi de Dieu. Le départ était bon, mais la continuité s'est avérée démesurée et excessive. Il y eut parmi les pharisiens qui sortirent du lot. Nous pouvons citer Nicodème, Gamaliel, Saul devenu Paul. Dans la parabole de Jésus, nos deux compères se retrouvent ensemble. Il n'y a pas d'incohérence puisque tous les deux sont juifs et soumis à la loi d'exercer la prière au temple deux fois par jour, à 9h le matin et à 3h de l'après-midi. Rappelons-nous que la parabole n'est pas une simple histoire. C'est l'illustration d'une scène de la vie courante pour illustrer une vérité et mettre en pratique. Nous sommes donc en présence de deux personnes qui prient à mi-voix, comme de coutume chez les Juifs. La signification de prier en soi-même ne veut pas dire que les autres n'entendent pas ce que l'on dit. On priait comme était faite toute lecture à mi-voix. La prière du pharisien énumère au verset 11 les fautes dont il s'est gardé, et au verset 12 ses bonnes œuvres, le tout sous le couvert de la reconnaissance à Dieu. « Ô Dieu, je te rends grâce !» Si nous regardons un peu plus près les péchés énoncés, qui ne lui correspondent pas évidemment, puisqu'il n'est pas comme les autres, et encore moins comme le publicain. Il souffre juste du problème de comparaison. « Je ne suis pas comme le reste des hommes. » Pour nous, ce mois de confinement nous ont permis d'aller chez les autres via les réseaux sociaux, d'aller voir comment vivent les autres églises, les autres dénominations, les autres qui ne sont pas comme nous. Je suis certain que personne, évidemment, ne s'est permis de dire quoi que ce soit sur les formules de culte, sur les messages, sur ceux qui n'ont rien fait peut-être. Personne ne s'est autorisé à comparer avec ce que nous faisons. Personne n'a même pas pensé que nous étions mieux que les autres. Personne. Ça, c'est chouette. Dans la prière du pharisien, il est dit aussi ce qu'il fait. Il jeûne 2 fois la semaine et il donne la dîme de tous ses revenus. Qui, comme pasteur ou dirigeant d'église, ne souhaiterait pas avoir les membres tels que lui? Plus de problème de sanctification, puisque 3 jours au moins, les 2 du jeûne et le sabbat sont réservés à la totale pour Dieu. Et le reste, 2 fois la prière par jour. Je me suis toujours demandé quand ces gens-là allaient aller travailler. Mais ce n'est pas le but de mes propos. Et de plus, quelqu'un qui donne la dîme de tous ses revenus évite la crise financière de la communauté et libère le trésorier de cheveux blancs prématurés. Mais quand même, une sacoue qui ne va rien. La loi ne prescrivait qu'un seul jeûne par an à la fête de l'expiation, le Yom Kippour, le jour du grand pardon. Pourquoi donc notre pharisien jeûnait-il 2 fois par semaine? De plus, en Orient, le jeûne comprend la privation de nourriture mais également de boissons, malgré la chaleur. Pourquoi? Pour ce qui est de la dîme, en agissant de la sorte, il voulait s'assurer qu'il ne toucherait à rien qui ne lui soit réservé. Pourtant, le producteur avait déjà donné les prémices du grain, du mou et de l'huile, selon Deutéronome 18.4. De plus, une partie était déjà collectée par les impôts et les taxes, évidemment prélevées par les publicains. Rien n'y fait. Le pharisien donne plus que la dîme de base. Ses bonnes œuvres sont de véritables sacrifices. Son jeûne touche son corps et ses dîmes ses biens. Il se croit donc pur par ses actions. La prière du pharisien est parfaite. Elle ne comprend aucune demande, que de l'action de grâce et l'étalement de ses actions réalisées pour le Seigneur. Le remerciement suprême de ne pas être comme les autres. Ô Dieu, merci de ce que je suis. De l'autre personnage, le publicain, dans l'opinion publique, ils étaient considérés comme des pécheurs. Ils étaient mis au même rang que les brigands. Ils n'avaient pas le droit civil. Et tous les hommes de bien les tenaient à l'écart. Dans la parabole, c'est lui-même qui se tient à distance. Il n'osait pas. Littéralement, il ne voulait pas lever les yeux au ciel en direction de Dieu. Et encore moins les mains, pratique qui était alors d'usage pour prier. Il se frappait la poitrine. Ou plus exactement, il se frappait le cœur. Regardez comme le siège du péché. Ce geste était l'expression d'une profonde repentance. Jésus continuera en déclarant que le publicain rentra chez lui justifié. Le verbe utilisé en hébreu signifie être acquitté, trouver justification, trouver grâce, tandis que le pharisien ne le fut pas. Qu'est-ce qui fait la différence? Ils étaient tous les deux juifs pratiquants, soumis à la loi, conscients de leurs actes. Qu'est-ce qui fait la différence? Nous pourrions nous poser la même question pour Caïn et Abel. Qu'est-ce qui a fait que Dieu a accepté l'offrande de l'un et refusé celle de l'autre? Ils étaient tous les deux frères, élevés dans la connaissance de Dieu. Ève dira de Caïn qu'il était formé avec l'aide de l'Éternel. Ils étaient conscients de cette présence de Dieu. Ils offrent tous les deux une offrande. L'Éternel agrée l'offrande d'Abel, véritable sacrifice expiatoire d'un animal premier-né, prémisse du troupeau, et refuse celle de Caïn, fruit de la terre. Pourquoi? La réponse est dans les versets qui suivent. Suite au refus de Dieu, Caïn fut irrité, et son visage fut abattu. Oh, nous, cela ne nous arrive pas. Quand Dieu ne répond pas comme nous voulons, et que de plus il agrée nos frères, nous ne sommes pas irrités ni abattus. Mis à part Jonas qui s'irrite parce que Dieu fait le contraire de ce qu'il dit ou qu'il pense, il n'y a personne d'autre qui nous ressemble. Nous acceptons toujours la volonté de Dieu, même si elle ne nous agrée pas. Je ne suis pas comme les autres. Que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Le pharisien est debout, nous dit la parabole. Caïn est sûr de son offrande. C'est la meilleure. Pas pour Dieu. La véritable offrande, la véritable prière, la véritable repentance, le véritable culte est celui qui vient du cœur. Dieu préviendra Caïn. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Jusque-là, Caïn est fâché et il n'a pas encore commis l'irréparable. Il a toujours une possibilité de penser autrement. Et si même le péché couche à ta porte, tu peux y résister. Résistez au diable, il fuira loin de vous, nous dit Jacques, chapitre 4, verset 7. Pour nous, quelles sont nos pensées quand nous apportons notre offrande, notre culte? Je suis meilleur que les autres. Je suis dans la meilleure église. Je suis droit devant Dieu. Avec mes activités, je suis juste devant Dieu. Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Cette parabole est pour ceux qui se croient debout, qui se font confiance à eux-mêmes plutôt qu'à Dieu. La prière du publicain est l'ultime cri. Il se sent rejeté. Il est bafoué. S'il veut être comme la loi demande, il doit abandonner son métier, mettre en péril sa famille, rendre ce qu'il a volé, retrouver tous ceux qu'il a flousés et leur rendre l'entièreté augmentée d'intérêt. Il se reconnaît pécheur impardonnable et dans l'impossibilité de se racheter. Comment sommes-nous ce matin? Comment est mon cœur aujourd'hui? Suis-je irrité parce que l'issue du conseil de sécurité ne va pas dans mon sens? Pourtant, je prie pour les autorités. Dieu n'a rien influencé. Suis-je en colère contre ceux qui brandissent la Bible et ne la lisent pas? Les derniers événements nous montrent beaucoup de gens irrités. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Personnellement, je veux avoir deux craintes. La première, la crainte de l'Éternel. Et la deuxième, la crainte de tomber par mon orgueil. Seigneur, garde-moi debout. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Que le Seigneur nous garde dans sa main, non par nos actions, mais par notre cœur. Luc 16, 15, Jésus dit aux pharisiens, « Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. » Ce ne sera rien de cacher quelque chose à Dieu. Mieux vaut libérer son cœur et ses pensées devant lui. La justification ne vient que de lui. Caïn était rentré en lui-même, il aurait changé le cours de l'histoire. La conclusion de notre parabole a dû étonner plus d'un auditeur. Alors que le pharisien est parfait dans sa démarche et dans sa prière, qu'a fait le publicain pour que Dieu le justifie? Comment a-t-il réparé sa faute? Jésus ne donne comme réponse que celui qui s'élèvera sera abaissé et que celui qui s'abaissera sera élevé. Le publicain, dans son cri de détresse, cite les premiers versets du psaume 51, auquel il ajoute seulement « À moi ». Qui suis un pécheur. Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. Un peu plus loin, dans le même psaume 51, il est écrit, verset 19, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Et dans la version Nouvelle France et Courant, mon Dieu, le sacrifice que je t'offre, c'est moi-même. Avec mon orgueil brisé, mon Dieu, ne refuse pas mon cœur complètement brisé. Jésus nous dit, Le Dieu de la parabole est comme le décrit le psaume 51. Il dit oui au pécheur désespéré et non à celui qui ne compte que sur sa propre justice. Il est le Dieu des désespérés et sa miséricorde est sans limite pour ceux qui ont le cœur brisé. Tel est Dieu. Amen.
Pour ces regards que l'on détourne devant le mal qui t'a cloué, pour ce péché où l'on retourne malgré le sang qui a coulé, pardonne-nous. Pardonne-nous. Chaque fois que notre bouche a condamné notre prochain, pour chaque fois que l'on se couche sur la colère,
Avant de refermer ce culte, je vous donne quelques annonces. Notre rendez-vous de prière à la maison, tous les mardis de 19h à 19h30. Vous pouvez aussi visiter le site des communautés d'Erstal-Sherat, avec lequel nous sommes en synergie. Et comme je vous l'ai dit au début de ce culte, vu la situation sanitaire, nous ne sommes pas prêts à reprendre les cultes en notre temple. Vous pouvez donc verser vos offrandes, si tel est votre désir, sur le compte que vous trouverez sur la page de Blogny. Et bien évidemment, chaque dimanche vers 10h, nous continuerons à assurer les cultes audio. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père Céleste, en vertu de l'œuvre de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Amen.